Je vais vous exposer ici le fruit d'un travail en cours, donc nécessairement imparfait, incomplet, etc. Et dont certains pans restent largement à explorer encore. Il me reste encore beaucoup de travail sur ce sujet. Bien, donc je vais commencer par, disons en gros, une position des termes du sujet que j'ai proposé. Bon, tout d'abord, un paradoxe, puisque réfléchir au paradigme du gouvernement domestique dans un séminaire qui se donne pour objet les formes du gouvernement au temps de l'Empire ibérique peut d'entrée de jeu sembler une gageure, hein, évidemment. À tout le moins, le public ici présent peut se demander si l'intervenant ne s'est pas trompé d'échelle, tout simplement. De fait, le gouvernement domestique a bien trait au gouvernement de la maison, et non, à première vue, au gouvernement de l'Empire, tel qu'il apparaît dans l'intitulé de ce séminaire. Dans la littérature classique, si l'on veut bien prendre le terme de littérature au sens large d'écrit, j'insiste, il était désigné sous le terme d'économique en France, ou economica, ou economia en espagnol, avec une orthographe tout à fait hésitante du terme, puisqu'on trouve le E dans l'O encore, soit en espagnol, soit en français, et même EU dans l'orthographe française. Et donc cette orthographe hésitante se voulait une restitution la plus fidèle possible de l'étymon grec, oikonomike, dont on a parlé tout à l'heure avec Alain, formé à partir du vocable oikos, qui signifie « maison ». Voilà. Donc on sait, grâce aux études qu'a menées Daniela Frigo dans les années 1990, que cette thématique essaima en Italie entre 1500 et 1700 dans la littérature sur le pater familias. Dans cette littérature, qui s'efforçait de prodiguer des conseils en matière de bon gouvernement de la maison, on entendait « gouvernement de la maison noble » par le père de famille. Elle proposait une représentation normative et politique de l'ordre nobiliaire. Comme l'a démontré Frigo, en se basant sur les analyses de l'école sociologique allemande, en particulier sur les travaux d'Otto Brunner, la production écrite sur le pater familias remplit alors une fonction sociale et politique, justifier la prééminence sociale de l'ordre privilégié et légitimer le pouvoir qu'il exerça dans le cadre politique italien. L'histoire sociale portant sur l'Espagne s'est relativement peu intéressée au thème de l'économie domestique, si ce n'est par le truchement des études sur la famille. Je pense en particulier aux travaux de l'historien de la noblesse, Ignacio Atienza, qui dans les années 90 s'est amplement inspiré des travaux de Fligo et de Brunner pour mettre en valeur la culture paternaliste que développa l'aristocratie dans le but d'entretenir le maillage serré de ses clientèles. Ce n'est que très récemment que l'histoire des réseaux a pris pour objet l'économie domestique en tant que pratique sociale et mise en œuvre d'un capital relationnel complexe. José María Himiscos Beunsa et Ollán Oliveri Corta l'ont détaillé dans l'ouvrage qu'ils ont dirigé en 2010, Economía doméstica y redes sociales en el antiguo régimen, qui est paru chez Silex, donc cette même année 2010. Alors, je n'aborderai ici leurs travaux que de façon initiale, car je vais m'en tenir, vous allez le voir, avant tout à l'étude des discours, et donc, si l'on veut bien, à l'étude des représentations. Donc, vous allez le voir dans ce que je vais dire. Je partirai donc, puisque je l'ai annoncé, de l'apport tout à fait clair d'Ollán Oliveri Corta, qui, sur la base des travaux toujours les mêmes, de Frigo, Brunner et Atienza, expose ce que l'on entendait précisément par économie domestique à l'époque qui nous concerne. Alors, il est communément admis, tant dans les traités ad hoc que dans la pratique sociale étudiée, que l'economica, ou économie, signifie l'administration d'un patrimoine domestique, un mode de gouvernement qui s'exerce sur la maison et sur la famille pour la conservation des biens. Ce gouvernement est exercé par la figure du pater familias qui a autorité sur les personnes constituant la famille et pour l'administration des biens. Il en est généralement le propriétaire. Le sens des mots dans le dictionnaire de l'époque nous indique quelques implications de ces notions. À la notice économie du dictionnaire des autorités, dont la publication a débuté dans les premières années du XVIIIe siècle, on peut lire, et je traduis, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne l'espagnol, « administration droite et prudente des rentes et des biens temporels, ce que l'on entend d'ordinaire par administration et gouvernement dans les maisons et les familles afin que les biens ne soient pas gaspillés. On retrouve dans cette définition les vertus de rectitude, de prudence, qui valaient également en matière de gouvernement politique. La peur de la ruine, de la déperdition économique est également présente. La richesse de la maison valait donc preuve du juste gouvernement qui y régnait. L'expression « padre de familia », donc en espagnol, hein, « père de famille », définie dans le dictionnaire des autorités, toujours le même, sous le mot « familia », sous la notice « familia », explique clairement cette fonction déterminante, je traduis toujours, « père de famille », le seigneur de la maison, même s'il n'a pas d'enfant. Donc la qualité de pater familias ne procède pas, on le voit bien, hein, de la réalité biologique qui consiste à se reproduire, mais simplement du fait d'exercer la fonction d'administration de la famille. La famille est entendue ici comme conglomérat de personnes, comme, je cite, complexe social, tel que l'avait défini le sociologue allemand Otto Brunner dans les années 1970. C'est-à-dire un ensemble d'individus animés par d'intenses flux relationnels, par des stratégies complexes de captation et ou de conservation de capital, symbolique ou non, pour le bénéfice de la famille dans son entier. Le terme de famille implique donc un ensemble relationnel qui n'est pas déterminé seulement par les liens de filiation ou de parenté, mais par des relations hiérarchisées, car la notion d'autorité est intrinsèquement liée à celle de chef de famille. Néanmoins, la notion d'économie domestique, avec les implications qui en découlent, n'est pas seulement, dans le cas espagnol, l'objet d'une littérature ad hoc. Certes, on retrouve ces notions dans la littérature nobiliaire, qui se développe singulièrement à partir du règne de Philippe II en Espagne, alors que les critères de noblesse se trouvent particulièrement en débat. Hein, je me réfère aux travaux de Adolfo Carrasco Martínez en particulier, mais d'autres bien entendu aussi, que je citerai par la suite. Mais le paradigme du gouvernement domestique innerve également un ensemble d'œuvres, à première vue assez hétérogènes, qui n'avaient pas pour vocation première de définir le bon gouvernement de la maison, comme c'était le cas en Italie, ni les préceptes ou la formation idoine pour y parvenir. Donc les réflexions qui vont suivre sont donc parties d'un constat, celui de la présence récurrente du paradigme de l'économia dans une littérature ample, diversifiée, où il était parfois déroutant de le trouver. Donc c'est pourquoi le corpus sur lequel portent les réflexions qui suivent n'est pas un corpus achevé, j'insiste bien, car sa constitution est encore le fruit, d'ailleurs, je continue à travailler sur ces thématiques, hein, d'une recherche plutôt empirique, exactement ce que déconseillent les directeurs de recherche, au fil des lectures et des recherches accomplies dans le cadre de notre personnel ou collectif, etc. Alors, où trouve-t-on ce paradigme ? Donc, maintenant, j'aborde, si vous voulez bien, la question du corpus. D'après ce que j'ai pu relever, on trouve ce paradigme dans la littérature sur les villes, par exemple. Alors, je cite un exemple, « El gobierno del ciudadano » de Juan Costa, sans doute l'ouvrage le plus glosé, un ouvrage de 1575 qui cherche à tracer le profil du parfait échevin et du bon gouvernement civil, c'est-à-dire de la ville. Cette littérature intéresse depuis plusieurs années l'historien espagnol José Francisco Aranda Pérez, dont un des objectifs affichés est de parvenir à l'histoire de la pensée de la citoyenneté dans la monarchie ibérique de la première modernité. Je caricature un petit peu, mais disons que c'est son objectif, il l'indique dans l'introduction de son dernier ouvrage. C'est du moins ce qu'il occupe clairement, justement, précisément, dans cet ouvrage qu'il vient de diriger avec José Damián Rodríguez et qui s'intitule « De Republica Hispaniae », qui est avec un sous-titre dont je vous fais grâce, qui est paru chez Silex à Madrid également en 2010, et dans lequel il livre une étude approfondie des ouvrages du même type. Un autre historien espagnol, Francisco Javier Gil Pujol, alors je le prononce à la catalane, s'est également intéressé de façon très précoce à l'œuvre de Juan Costa, celui dont je parlais tout à l'heure. Dans le cadre de son étude du républicanisme aragonais. Juan Costa, qui est donc un juriste d'Aragon, détenteur de la chaire de rhétorique à l'université de Salamanque, puis de Saragosse et Jura de cette même ville. Alors si Juan Costa fait œuvre importante en s'intéressant au gouvernement des villes et donc au rôle des oligarchies urbaines à qui il propose une norme de bon gouvernement, son ouvrage est également à mettre en perspective avec une veine littéraire, me semble-t-il, qui se développe de façon contemporaine à sa réflexion, c'est-à-dire celle de la chorographie, étudiée récemment par Richard Kagan. L'archéographie regroupe ces ouvrages qui, donc je le rappelle pour ceux qui ignoreraient ce type de veine littéraire, hein, regroupe donc à partir regroupe ces ouvrages qui, à partir de celui de Gonzalo Ayora de Córdoba sur Ávila, publié à Salamanque en 1519, s'attacheront à faire une histoire, une description et un éloge des villes. L'œuvre emblématique du genre étant, selon Kagan, la Historia o Descripción de la Ciudad de Toledo, donc vous comprenez, je crois que ce n'est pas très difficile à comprendre, datée de 1559 et publiée à Tolède par Pedro de Alcocer. Et c'est elle qui, selon Kagan, servira de modèle aux ouvrages similaires qui virent le jour en Espagne, précisément parce qu'elle cherchait à replacer l'histoire de Tolède dans l'histoire générale de la monarchie hispanique, celle voulue par les monarques depuis les rois catholiques. En tout cas, c'est la thèse de Kagan. Alors, on trouve également ce paradigme de l'économie domestique dans un autre type de littérature que j'appellerais pour faire court politique. Par exemple, je donne un exemple tout de suite, sous la plume du franciscain Juan de Santa Maria, dans le traité qu'il signe en 1615, Tratado de República y Policía Cristiana para Reyes y Príncipes. Donc ce traité, ou cet ouvrage, en tout cas il s'appelle Tratado, a été maintes fois réédité en son temps, et il est très célèbre, parce que Santa Maria y critique quasi ouvertement la politique du ministériat du duc de Lerma, le favori de Philippe III d'Espagne. Il y prépare aussi l'avènement d'une autre équipe politique qui viendra après. La littérature critique envers les mauvais ministres et le mauvais gouvernement prendra une ampleur inégalée lors du ministériat d'Olivares, c'est-à-dire le ministériat suivant. Constamment en but, donc Olivares, à une opposition qui se manifeste non seulement par la circulation manuscrite des libelles et des pasquins, de poèmes caricaturaux, satiriques, de pamphlets, mais aussi dans les ouvrages publiés, non seulement en Aragon, où on sait très bien que la licence d'impression n'est pas soumise à l'autorité du Conseil de Castille, au moins jusqu'en 1637, moment où les livres d'histoire de la cour d'Aragon sont obligés de passer par le Conseil de Castille pour être imprimés, donc non seulement en Aragon, mais aussi en Castille. Bien, je vais convoquer maintenant une autre littérature, puisque le paradigme du gouvernement de la maison est également très fortement présent dans la littérature qu'il est convenu d'appeler, également d'un terme qui peut faire débat, économique. On le trouve en particulier chez les fameux arbitristas, c'est-à-dire ces donneurs d'avis, hein, de la façon dont on traduit le terme arbitrista en français, qui proposaient avis et remèdes au roi pour soigner les maux de la monarchie. Comme, par exemple, chez Martin González de Celiorigo, dans le fameux mémorial de 1600, qui a été magistralement étudié par Jean Villard, ou comme chez Jerónimo de Ceballos, dans son Arte Real, qui fut publié à Tolède en 1623, après la tenue des juntes de réformation. Et il faut préciser que, précisément, Roger Aranda Pérez a récemment donné une étude monographique sur cet auteur. Enfin, et c'est la dernière veine littéraire que je voudrais convoquer, on trouve ce paradigme de l'économie domestique dans la littérature dite morale, dont la fiction à l'occasion n'est pas absente. Je pense en particulier au Sueño del Perfecto Señor, Sueño Politico, donc au songe politique d'Antonio López de Vega, daté de 1626, une œuvre dont l'habillage fictionnel du songe révélation accompagne en réalité un traité d'éducation du noble, doublé d'un art de vivre à la cour. Et seul Ignacio Atienza s'est intéressé à ce type d'écrit par le biais de ses recherches, car la matière nobiliaire, précisément, innerve également un ensemble d'œuvres dites morales qui sont un des objets de l'histoire de la noblesse. Hein, et Atienza est bien un historien de la noblesse. Alors, ce corpus d'œuvres, alors évidemment qu'il n'est pas complet, mais disons que j'en suis là pour l'instant, ce corpus d'œuvres dont j'ai cité quelques exemples et qui toutes, je le précise, furent l'objet d'une publication éditoriale, hein, dont la réception d'ailleurs serait à examiner au cas par cas, se caractérise, vous le voyez, de prime abord par son éclectisme. Donc il s'agit bien de comprendre ici, ou de tenter de le faire, hein, de tenter de comprendre pourquoi la thématique du gouvernement de la maison y crée une chaîne paradigmatique, en quels termes, avec quelle visée, et si cette parenté thématique est l'indice d'autres types de cohérence dans ce corpus ou non. Alors, les œuvres que je viens de mentionner, et c'est un premier élément de réflexion, de cohérence, générique si l'on veut, relèvent pour une large part, je dis pour une large part, de la vaste catégorie de la prose d'idées à l'époque qui nous concerne. Alors, d'autres que moi, d'autres avant moi, ont classé ces œuvres dans ce que l'on pourrait appeler, avec Gérard Genette, l'archigenre de la prose d'idées. Raphaël Carrasco, dans le chapitre qu'il consacre à la prose baroque et qu'il donne comme synonyme de prose d'idées, hein, il met bien ces deux termes en parallèle, il les donne comme synonymes, dans l'histoire de la littérature espagnole dirigée par Jean Canavaggio, rassemble dans cette vaste catégorie dialogues, tableaux de mœurs, miscellanées, écrits économiques, écrits politiques, philosophie morale, etc. Mais cette catégorie ample, vous voyez, a longtemps souffert et souffre encore d'un déficit de définition, partiellement comblé depuis l'approche littéraire et générique de Stéphane Pujol pour la littérature française. Alors là, c'est Pujol, mais en français. Hein. Donc, selon Pujol, Stéphane Pujol, la prose d'idées regroupe des ouvrages aux thématiques fort diverses qui ont toutefois en commun de se situer entre littérature et philosophie et de prendre pour objet l'homme comme être social. Vaste programme. Alors, Pujol explique que la visée littéraire ou poétique n'est pas l'ambition première de ses œuvres. Ce sont donc des textes qui valent davantage pour ce qu'ils disent que pour ce qu'ils sont. Ils sont spéculatifs, voire doctrinaux, souvent didactiques. Pujol, en tant que spécialiste de littérature française, en a même généralisé le concept pour forger l'expression englobante de littérature d'idées, et non pas prose d'idées. Littérature d'idées, un terme donc qui m'a paru opportun de choisir pour le titre de cet exposé, car il me semble que c'est un appellatif particulièrement suggestif. En effet, il permet d'inclure des œuvres génériquement hybrides, incluant à l'occasion la poésie à côté de la prose, comme c'est le cas par exemple pour l'ouvrage de Lopez de Vega que j'ai cité précédemment. Dans cette littérature d'idées, donc, nous avons affaire à des œuvres qui, en somme, peinent souvent, très souvent, à trouver place dans les nomenclatures ou les typologies de nos manuels ou de nos histoires de la littérature, car elles sont, littéralement, inclassables. Elles relèvent, donc, parfois, souvent de plusieurs genres, mais surtout, elles mettent en jeu plusieurs de nos disciplines constituées, je veux dire les disciplines telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi les découpages disciplinaires que je ferai lors de cet exposé doivent être entendus dans le sens d'une volonté didactique, sans qu'ils procèdent d'une véritable réalité épistémologique à l'époque concernée, comme nous le verrons. Alors, par ailleurs, ce conglomérat d'ouvrages, qualifié récemment par Guillermo Ceres de « prosa de pensamiento », littéralement « prose de pensée », invite, par les appellatifs qui lui sont attribués, à aborder cette ample catégorie textuelle par l'interdisciplinarité, en nous situant au croisement de l'histoire littéraire, de l'histoire culturelle, de l'histoire des idées, en faisant également appel à l'histoire politique et sociale, une démarche interdisciplinaire, donc, qui est, ce me semble, à l'origine aussi de ce séminaire. Alors, venons-en à la chronologie, si vous le voulez bien. Elle nous est dictée, en partie, par la prolifération de la littérature dite économique, cette littérature d'avis et de remèdes que je viens de citer, qui fleurit surtout autour des années 1616-1630, à cheval entre les deux règnes de Philippe III et de Philippe IV d'Espagne. Je rappelle ça pour les étudiants, hein. Les chercheurs confirmés n'ont pas besoin de ce type de rappel. Dans un article resté célèbre, John Eliot a vu dans cette période un moment d'introspection collective, c'est son expression, qui réfléchit à la décadence de la monarchie hispanique. Alors, si les études sur le concept de décadence ont permis de nuancer, bien sûr, l'apport de cet article fondateur, par exemple, pour ce qui concerne la crise dite de l'aristocratie, hein, je pense aux travaux, par exemple, de Yun Casalilia, il n'en reste pas moins que la conjoncture qui s'amorce sous Philippe II est préoccupante. Donc, quelques jalons pour le rappeler, hein, les débuts de la guerre de 80 ans contre les provinces du nord des Pays-Bas, l'échec de l'inversible Armada de 1588, l'instauration d'un nouvel impôt des millones en 90, qui aboutissent finalement, pour faire court, à la nouvelle banqueroute de 1596, le traité de Vervins, signé en 1598 avec la France, qui s'avère particulièrement décevant, puisqu'il n'ouvre sur aucune alliance matrimoniale et marque l'isolement des Habsbourg en Europe, l'épidémie de peste de 1596-1601 qui décime la population castillane et englue le royaume dans une spirale du dépeuplement particulièrement commentée sous le règne de Philippe III, mais déjà pointée par l'observateur du royaume d'Espagne que fut Giovanni Botello. Alors Philippe III, encore des rappels, prend acte des plaintes des représentants des villes aux Cortés et organise une grande consultation sur l'état de la monarchie en passant par un organisme parallèle aux organes institutionnels de la polisinodie espagnole, les juntes, dont je reparlerai. Donc c'est le moment de la première et non moins fameuse Junta de Reformación que j'ai citée tout à l'heure, dont les membres sont nommés en 1618. Comme on le sait, les résultats de cette junte et de celle qui lui succédera dès l'avènement de Philippe IV ne s'avéreront pas à la hauteur des espérances, même si leurs propositions sont prises en compte au moins partiellement, notamment celle de la réduction des coûts des maisons royales dont nous aurons à reparler. Les deux décennies qui précèdent et succèdent à la tenue de ces juntes, on le sait, donnent lieu à une abondante production d'écrits de type économique, rédigés par des hommes d'origine sociale très diverses. John Eliot en faisait déjà la remarque en 1977, alors même que José Gutiérrez Nieto était loin d'avoir rédigé son article fondateur sur la classification des courants dits arbitristas et dont l'apport a été réévalué depuis. Ces donneurs d'avis sont clercs, membres de l'administration royale comme Fernández Navarrete, représentants de Vilo Cortés, et donc représentants des oligarchies urbaines comme Lison y Biedma, dont les textes furent étudiés par Jean Villard. Donc si l'on accepte le groupe des penseurs de Tolède, mis en valeur par Villard également, c'est plutôt l'hétérogénéité de ce courant très étudié qui domine, Anne Dubé l'a bien montré. Alors, la période de production de ce type d'écrit recoupe en grande partie, et c'est là l'intérêt, un moment fort de la production d'œuvres politiques en un temps où le fonctionnement des institutions monarchiques sont fortement perturbés par l'omniprésence de la figure du balido aux côtés du monarque, c'est également une affaire connue. Alors si Antonio Ferros ou Francisco Benigno ont pu considérer que Cristobal de Maura fit figure de favori de Philippe II, puisqu'il exerça lui aussi la fameuse charge courtisane de sommelier de corps, c'est sous Philippe III, puis sous Philippe IV, que s'imposèrent deux représentants majeurs du Valimiento, Francisco de Sandoval, duc de Lerme, et Gaspar de Zúñiga, comte-duc d'Olivares. L'effort de théorisation autour de cette nouvelle configuration politique, particulièrement intense sous le ministériat de Lerma, puisqu'il le suscita lui-même en grande partie afin d'asseoir une légitimité contestée, accompagna une période de pouvoir pendant laquelle l'écrit politique vint en quelque sorte compenser ou bien critiquer le vide juridique qui entourait le rôle pourtant politiquement prépondérant joué par le favori. Dans la littérature apologétique du balido, il ne s'agissait pas d'octroyer une réelle existence juridique à ce maillon de la chaîne de décision. Le champ d'action du balido devait au contraire rester éminemment situé dans la sphère de la praxis politique et de la mise en convergence des différents royaumes par le contrôle de la maison du roi et de son rôle intégrateur des élites. La littérature critique, elle, envers cette même figure du balido, s'en prit au lien d'exclusivité qui liait le balido et son roi, au point que l'ombre du balido en venait à éclipser la lumière du soleil royal. C'est une métaphore extrêmement connue, bien sûr. L'effort théorique que suscita la présence du balido aux côtés du roi ne faisait qu'accentuer la tendance qui, depuis l'assimilation chaotique mais incontestable du legs machiavélien et la rupture de l'unité religieuse de la chrétienté, exigeait de penser la politique en termes pragmatiques, dans une nouvelle articulation à trouver avec le plan de la morale, bien sûr. Alors, pour terminer ce panorama chronologique, en ce qui concerne maintenant la littérature traitant de la culture nobiliaire, puisque j'ai traité de la littérature économique puis de la littérature politique, cette littérature sur la culture nobiliaire offre également une chronologie spécifique dont la thèse d'Antonio Guillem Berendero, soutenue en 2009, nous offre une approche d'ensemble fort utile. Alors, d'après Berendero, le règne de Philippe III d'Espagne est encore un moment de transition importante de cette périodisation. Le règne précédent, celui de Philippe II, correspond à une période intense de production d'écrits nobiliaires en Castille. Sous Philippe III, néanmoins, les traités afférents à la noblesse faiblissent en nombre, et ce sont les œuvres généalogiques qui semblent les plus nombreuses, avant de se multiplier sous le règne de Philippe IV, où réellement elles accaparent tout le discours sur la noblesse. Cette périodisation est également marquée par un tournant dans la teneur du discours. Il apparaît que des deux sources de légitimation de la noblesse, celle du sang et celle du service au roi, qui offrait une justification utile au mécanisme d'ennoblissement, la première, c'est-à-dire celle du sang, l'emporte au fil du temps. Alors même que le XVIe siècle castillan avait opéré la synthèse de ces deux sources de la noblesse, représentées respectivement dans la tradition médiévale tardive par les deux figures majeures du XVe siècle, Diego de Valera d'une part et Pedro Mejía d'autre part. L'accès aux charges administratives, par la nécessité de fournir la preuve de sa noblesse et de sa pureté de sang, par le biais des témoignages, génère une inflation de la littérature généalogique et met fortement l'accent sur le mécanisme de la reconnaissance publique et notoire du statut de noblesse. La question de l'honneur, fruit de la reconnaissance de l'individu et du lignage par autrui, celle de la vertu, attachée à la naissance, deviennent centrales dans les discours sur l'ordre privilégié et fait pencher la balance des valeurs nobiliaires vers les critères biologiques. Dans le même temps, ces discours sur la noblesse fournissent aux groupes émergents, mais aussi aux élites intellectuelles lettradas, qui revendiquent une forme de noblesse naturelle, je le rappelle, une représentation normée de la noblesse dans le cadre courtisan. Une norme à laquelle ils peuvent se conformer selon leurs aspirations. Cette littérature, donc, pense les questions d'autorité et de pouvoir en termes domestiques. Puisque les aristocrates, appelés à exercer par leur proximité avec le roi de haute fonction de commandement, font partie de l'ample processus de gestion politique de la monarchie. D'ailleurs, c'est très connu, dans sa correspondance avec eux, le roi les appelle tous cousins. Mais ce n'est pas un vain mot, car ils forment, avec lui, une même famille. Par ailleurs, l'intégration des élites dans les maisons royales, castillanes et bourguignonnes, leur fournit un cursus honorum courtisan au service du monarque. La réforme projetée par Philippe III dans un sens de castillanisation des maisons royales, selon ce qu'ont démontré Martínez Millán et Gómez Centurión, les ordonnances de 1624, édictées par Philippe IV, après la réunion de la junte des majordomes et puis une autre, celle des offices, enfin, la suppression de la maison de Castille, fortement envisagée en 1644, constitue autant de coups portés au fonctionnement des rouages politiques du vaste système clientélaire et de services de la monarchie. La préoccupation domestique, on le voit, ressortit donc dans la culture nobiliaire à des priorités statutaires et courtisanes. J'en termine tout à fait avec la littérature sur les villes. Là encore, la chronologie pointe les deux règnes de Philippe III et de Philippe IV comme un moment névralgique. Après l'œuvre fondatrice de Costa, Kagan situe l'apogée de ces histoires de villes durant la première moitié du XVIIe siècle encore. La production de certains auteurs, qui se firent une spécialité de ce type d'histoire locale, comme Martín de la Roa, est totalement concentrée sur la première moitié du XVIIe siècle. À noter également qu'en Aragon, où le constitutionnalisme, le pacte entre roi et royaume, la présence du Justicia de Aragon comme médiateur entre les deux instances, induisait une défense aiguë des privilèges et des lois particulières, eh bien, en Aragon également, on constate une veine très prolifique en matière de chorographie. Et cette imbrication entre production littéraire et implication politique est bien sûr à retenir. Alors, ce pic de production, dans la première moitié du XVIIe siècle, est sans doute à rapprocher de la conjoncture politico-économique agitée, dont les précisions nous sont fournies par l'histoire de la fiscalité et de la finance, particulièrement pour la Castille. Après 1588, le nouvel impôt des millones, voté par le royaume en 1590, donne un pouvoir accru aux villes, on le sait. Les oligarchies, qui sont seules représentées dans les cours depuis 1538, obtiennent des prérogatives supplémentaires au fur et à mesure des négociations pour le renouvellement des millones. Ce mécanisme, bien sûr, a été mis en valeur par les historiens des finances, Felipe Ruiz Martín, Gelabert, Fortea Pérez, Dubé. Or, il semble que la publication éditoriale de certains ouvrages descriptifs et apologétiques sur les villes voit le jour pendant la période où elles reçoivent des délégations importantes pour la levée des nouveaux impôts, ou encore quand certaines villes cherchent à faire valoir leur prééminence pour siéger au Cortés. C'est le cas de Logroño, par exemple, relevé par Richard Kagan, dont Fernando Alvia de Castro rédige une histoire en 1633, publiée à Lisbonne. Alors, par ce tour d'horizon de production textuelle, a priori variée, nous avons donc affaire à un ensemble chronologique cohérent qui nous conduit à pointer les règnes de Philippe III et de Philippe IV comme un moment clé de compréhension de la récurrence de ce paradigme que nous étudions, en fonction de la spécificité contextuelle de chaque type d'écrit. Une richesse textuelle dans sa variété qui n'a pas été forcément saisie dans son ampleur ni dans sa cohérence chronologique. Alors, à cette cohérence chronologique, d'autres éléments s'ajoutent et permettent d'en mesurer l'amplitude. Vous aurez peut-être remarqué que ces œuvres que j'ai citées brièvement relèvent thématiquement de trois domaines fondamentaux: morale, économique et politique. En réalité, ce n'est pas du tout un hasard, puisque ces trois matières forment ce que les sommes médiévales désignent sous le nom générique de philosophie ou philosophie morale. Cette discipline, conçue au siècle classique comme un savoir unitaire, se décline selon trois modes de gouvernement qui ont partie liée. Gouvernement de soi, moral, gouvernement de la maison économique, gouvernement de la République, politique. Étant entendu que le gouvernement de la République peut désigner le gouvernement civil au niveau des villes et ou, l'un ou l'autre, mais souvent les deux, le gouvernement de la monarchie tout entière. Alors, les premières questions qui surviennent sont les suivantes. Comment s'opère l'articulation entre ces différentes branches de savoir dans les textes évoqués? Quelle est la place qui occupe l'économia ou l'économie? Ces questions nous conduiront, en tout cas dans un premier temps, à une approche épistémologique de cette problématique, mais d'autres suivront, un deuxième temps, qui devront porter le questionnement sur le terrain sociopolitique. Quelle peut être l'efficience politique de l'utilisation d'un tel paradigme? Pour quels groupes sociaux et dans quel but? Alors, premier temps de réflexion, qui ne sera, j'espère, pas trop long, d'ordre épistémologique, autour du savoir unitaire de la philosophie morale. Alors, c'est une trilogie. Cette trilogie de la philosophie morale a une longue histoire, et je ne vais pas la retracer ici, ça serait vraiment trop long. Simplement poser quelques jalons, je voudrais poser quelques jalons, capables de nous éclairer sur les modalités de la permanence du paradigme de l'économia dans les écrits que nous avons évoqués. Alors, ce savoir unitaire est enseigné comme tel dans les universités de la péninsule. Il fait partie des enseignements dispensés au sein des facultés des arts, qui sont une sorte de propédeutique, pour entrer ensuite dans les très prestigieuses facultés de théologie et de médecine. Par exemple, à l'université de Valence, créée en 1502, le programme d'enseignement de la chaire de philosophie morale, et qui donc, je l'insiste, représente une discipline constituée, comprend les trois livres attribués à Aristote, Ethicorum, Economicorum, Politicorum. Nous retrouvons là les trois formes de gouvernement, déclinées par ordre croissant de l'objet, soi, maison, république, que décrit Michel Foucault dans un article majeur sur le paradigme de la gouvernementalité. Alors, si en la matière, la référence à Aristote devient incontournable dans la pensée de la Renaissance, dans l'Italie des cités d'abord, puis chez les autres puissances européennes ensuite, nous savons que ces textes, les textes d'Aristote, ne sont pas parvenus aux intellectuels du Moyen-Âge occidental par le truchement des traducteurs arabes qui traduisaient directement du grec. L'apport d'Aristote transita donc par le biais de traductions latines incomplètes et surtout par les commentaires scolastiques dont on trouve la trace dans les sommes médiévales. C'est à partir du XIIe siècle, vous voyez que j'ai sauté beaucoup de siècles, qu'une traduction latine d'Aristote fait référence, celle de Guillaume de Moerbeck, dont Thomas d'Aquin, au siècle suivant, fera un commentaire célèbre. Mais il faudra attendre les travaux de Nicolas d'Oresme, conseiller du roi de France Charles V, pour avoir une traduction complète des trois livres d'Aristote. écrite en 1370, la première traduction de la politique d'Aristote en langue vernaculaire ne sera publiée qu'en 1489. Horesme, et c'est ce qui intéresse notre propos, réunit le livre de la politique d'Aristote avec l'éthique et l'économique, formant ainsi la trilogie complète qui sert de base philologique à la constitution de la philosophie morale. La deuxième grande étape de la réception de la politique d'Aristote se joue avec la traduction qu'en fait Leonardo Bruni à partir des manuscrits grecs reçus de Byzance, mais je ne vais pas insister sur l'apport de Bruni parce que sa traduction est bien sûr très, très connue. C'est Gilles de Rome qui, dans le De Regimine Principum, qui rédige pour Philippe le Bel en 1270, qui introduit la gradation temporelle et pédagogique selon laquelle le prince doit d'abord apprendre à se gouverner soi-même avant de gouverner sa famille, puis se consacrer ensuite, en pleine possession de son art de gouverner, au gouvernement des autres. Le miroir au prince de Gilles de Rome restitue dans sa structure même, tripartite, les trois arts de gouverner et développe donc l'intégralité du paradigme tout en posant le problème de la conservation du gouvernement, annonçant par là la rupture machiavélienne. Le commentaire castillan, j'insiste castillan, que Juan García de Castrojeriz fait de l'ouvrage de Gilles de Rome en 1374, et dont plusieurs copies contemporaines, mais aussi postérieures à cette date, sont conservées à la Bibliothèque nationale de Madrid, montre que son apport a donné lieu à une forte appropriation dans la péninsule ibérique. Par la suite, les rééditions du même traité, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, dans toute l'Europe cette fois, illustrent vraiment la véritable permanence de l'ordonnancement des arts de gouverner par ordre croissant de l'objet, hein, tel que l'a décrit Michel Foucault, jusqu'à la période qui nous occupe. Pour le cas espagnol, encore, et la réception d'Aristote qui s'y joue, Carlos Such a mis en évidence la contribution de l'infant navarrais, Carlos de Viana, pour la connaissance directe de l'œuvre d'Aristote. À la fin du XVe siècle, celui qui allait devenir le prince de Viana fit une traduction en castillan des éthiques d'Aristote, les éthiques. Diffusée dans toute l'Europe sous forme manuscrite, cette traduction, donc des éthiques, est publiée à Saragosse chez l'éditeur allemand Jorge Cossi en 1509. Cette édition est intéressante parce qu'elle comprend non seulement la traduction castillane de l'éthique par Viana, mais aussi la traduction espagnole anonyme, cette fois, ce n'est pas Viana qui les signe, des économiques et de la politique, à partir du texte de Bruni. Dans le prologue du traducteur anonyme, donc on ne connaît pas son nom, l'accent est porté sur la question du gouvernement des villes, mais aussi des familles, l'un n'allant pas sans l'autre, dans l'esprit de celui qui écrit. La notion centrale est donc celle de famille, pensée comme unité sociale de base, telle qu'en la pensée d'Aristote. Dans les économiques, livre 1, chapitre 1, Aristote revendique l'antériorité de l'économique par rapport au politique, car nous dit-il, son œuvre, en effet, je cite Aristote, enfin en tout cas sa traduction, elle-même, donc son œuvre, celle de l'économique, est en effet elle-même antérieure, puisqu'une famille est une partie de la cité. Pour le stagirite, on le voit très bien, l'économique est antérieure à la politique, car la famille est l'unité de base de la société humaine. Mais la politique est la science pratique à laquelle toutes les autres sciences pratiques sont soumises. Dans le jargon aristotélicien, on dit que la politique est architectonique, c'est un joli mot, dans l'ordre pratique. Elle utilise toutes les autres sciences pratiques, éthiques et économiques, alors que celles-ci, l'éthique et l'économique, ne l'utilisent pas, puisque leurs buts sont ordonnés à celles de la politique et non l'inverse. Alors, étant donné la nature de l'apport aristotélicien en matière d'articulation entre les trois domaines et les jalons de sa réception par le Moyen-Âge, il semble qu'une importance particulière soit accordée, à l'époque qui nous concerne, à la place de l'économique dans ce savoir unitaire, notamment dans son articulation avec le politique. Alors, j'en reviens au dictionnaire des autorités comme à un point de repère. Sous la notice de l'adverbe « economicamente », on peut lire « regladamente, ordenadamente, con economia y gobierno », j'ai cité en espagnol, donc je traduis, de manière régulée, ordonnée, avec économie et gouvernement. L'économique est mise sur le même plan que le politique dans la façon dont la société doit être ordonnée. Elle est, avec le gouvernement, le garant de la bonne règle sociale. Saavedra Fajardo proclame dans son Empresa numéro 6, je traduis directement, « Il n'y a point de pierre philosophale plus riche que celle de la bonne économie. » Saavedra, qui publie, je le rappelle, ses Empresas Políticas en 1640, dit à la fois sa dette, me semble-t-il, envers l'héritage de l'antique philosophie, mais revendique également la bonne économie comme centre de gravité de la philosophie morale. Il y ajoute, remarquons-le, un adjectif qui connote une excellence en matière morale, bonne, buena en espagnol. Chez Saavedra Fajardo, l'économique semble donc devenir la pierre angulaire de ce savoir séculaire de la philosophie morale qui touche aux questions de gouvernement. Alors, l'importance accordée à l'économique va ainsi se donner à lire à travers les articulations entre les droits domaines de savoir unitaire de la philosophie morale ménagés par les auteurs, en particulier avec la politique. Et de fait, on se rend compte, à la lecture des différentes œuvres, que l'articulation fondamentale prend appui sur la mise en place d'un système de représentation analogique qui met en parallèle la maison et la République. Le petit est rapporté au grand, le microcosme au macrocosme, de manière à ce que la maison et la famille servent toujours de référence. Nous nous situons clairement, me semble-t-il, dans les structurations analogiques de la pensée classique, telles qu'avait pu les relever Michel Foucault, cette fois, dans Les mots et les choses. L'ordre naturel de la société, qui est aussi un ordre hiérarchisé, hein, on l'a bien vu avec les définitions du père de famille, devient l'argument utile quand il s'agit de faire des comparaisons d'échelle pour servir un propos de nature politique ou sociale. Alors, une telle perspective requiert bien sûr le cas par cas, puisque c'est bien dans les nuances de cette mise en regard comparative, nous semble-t-il, que le lecteur attentif, en tout cas j'espère l'être, pourra déceler les régimes de politisation de chaque production en fonction de la localisation contextuelle de chaque auteur. Néanmoins, j'ai parlé de cas par cas, il convient de conserver à l'esprit une ligne d'analyse peut-être plus générale qui serait la suivante. L'ensemble thématiquement cohérent formé par la diversité textuelle que nous avons envisagée est-elle le signe d'une interconnexion politique de ces textes très variés? Il est temps désormais de passer à l'étude des discours et à une sorte de topographie, si on veut bien me permettre cette expression, une sorte de topographie de cette analogie gouvernement de la maison, gouvernement de la République, qui occupe un second et dernier train, je vous rassure, de réflexion. Alors, je m'en tiendrai essentiellement à deux exemples, celui de la littérature dite politique et plus spécifiquement à celle qui est produite par les jurisconsultes, hein, je précise bien, et celui, deuxième exemple, de la littérature nobiliaire qui lui fait face, en fait, sur l'échiquier politique du temps. Et je n'évoquerai d'autres œuvres qu'en contrepoint. Donc, j'abandonne, si vous voulez, momentanément, la littérature dite économique, parce que j'en ai déjà traité dans d'autres travaux, et la littérature sur les villes, parce qu'alors là, il faut vraiment que je m'y attelle. Alors, premier exemple, les écrits des jurisconsultes, et je parlerai en particulier de l'œuvre de Francisco Bermúdez de Pedraza, intitulée El Secretario del Rey, qui a été publiée à Madrid chez Luis Sánchez en 1620. Alors donc, premier exemple, qui sera plus court que le second, cette littérature sur les écrite par les jurisconsultes et qui prend, disons comme axe analogique, la maison comme modèle pour la République. Alors, cette production textuelle, celle des jurisconsultes, et qui émane majoritairement donc de ce qu'on appelle les jurisconsultes, c'est-à-dire les experts en droit formés à l'université, les fameux letrados, étudiés par Jean-Marc Pellorson dans une thèse qui a fait date en 1980, c'est déjà ancien. Alors on sait par la littérature qu'elle a produite que cette corporation des jurisconsultes est dotée d'une puissante identité sociale. Son accès aux plus hautes dignités de la hiérarchie administrative se faisant par une voie autonome grâce à leur formation dans les universités et les écoles. Cette voie d'accès à l'honneur est foncièrement différente du cursus honorum menant à la captation des charges courtisanes dans les maisons royales. Dans la période qui nous occupe, la production textuelle émanant de ce groupe prend un tour revendicatif marqué face à la poussée de plusieurs forces concurrentes sur l'échiquier politique de la monarchie hispanique. Les jurisconsultes porte à la connaissance du public le débat qui les occupe, puisqu'ils produisent des œuvres qu'ils font passer par les presses de plomb. Ils cessent d'écrire en latin, pour une plus ample réception de leurs écrits et cherche à s'affranchir, c'est net, du carcan générique du traité. Pour en revenir à l'objectif politique qui anime ce groupe, je partirai de l'article que Jean-Frédéric Schaub a publié en 2005 dans l'ouvrage « Loi, justice et coutumes » qu'il a lui-même codirigé. Il y fait la synthèse des obstacles auxquels les discours des lettrados montrent qu'ils sont confrontés. Hein, et d'après lui, ces trois obstacles sont de trois ordres, je les rappelle brièvement. Premier obstacle, celui des juntes, dont nous avons déjà parlé, qui systématise en fait une pratique mise en usage sous le règne de Philippe II. La junte, on le sait, permet de court-circuiter le passage par les conseils où dominent les lettrados, ainsi que le mécanisme de la consulte écrite. On recherche une délibération plus efficiente, plus rapide, au cas par cas, par une juridiction ad hoc, pour une mise en pratique plus rapide de la décision et l'optation d'une résolution la plus adaptée possible. Deuxième obstacle, je passe rapidement, les écrits des arbitristas, dont la parole est écoutée par le roi et dans les cours, mais mise en cause par les jurisconsultes. Ils se multiplient, on l'a dit, à la même période. Or, les donneurs d'avis, exclus de la parole légitime en droit, par l'appellatif même qui les qualifie, hein, donneur d'avis, offre du roi, l'image d'un administrateur volontariste qui rompt avec la représentation séculaire du roi justicier, dont la grandeur et la continuité sont précisément assurées par le devoir de conseil exercé par les membres institutionnels de la polysynodie. Bon, tout cela est connu. Mais c'est bien la figure du favori qui devient la cible privilégiée des écrits produits par les lettrados, qui voient en lui la menace de loi la plus sérieuse contre leurs prérogatives ainsi que contre le fonctionnement ordonné des institutions. La relation d'intimité qu'il entretient avec le roi, par les charges courtisanes qu'il occupe auprès de lui, donne en effet la prévalence au lien d'amitié par rapport au rouage institutionnel des conseils, garant du fonctionnement de la monarchie au service du bien commun. Alors voici l'exemple précis que je voudrais vous soumettre, celui de Francisco Bermúdez de Pedraza. Pedraza commet un ouvrage sur le parfait secrétaire royal qui transforme celui-ci en véritable pilier de la monarchie. Il utilise pour ce faire une métaphore géographique qui assimile les secrétaires au pôle du globe terrestre, devenu globe de la monarchie, c'est-à-dire que, si l'on comprend bien Pedraza, les secrétaires sont les axes qui permettent au mouvement de la monarchie de s'accomplir et de ne pas dévier de leur juste route. Cette image, me semble-t-il, est à mettre en relation avec une autre métaphore du temps qui désignait la figure du favori sous les traits d'Atlas, celui qui porte le globe terrestre et qu'Hercule relaie un moment alors qu'il est en chemin dans la conquête de son 11e travail. Pedraza oppose donc à la référence mythologique et donc païenne la modernité et l'assise scientifique de la géographie, aussi fiable et fondée en raison que le savoir juridique. Celui-là même, précisément, que le secrétaire doit mettre au service de son roi. Pour lui, le privado, ou balido, mais attention, ce n'est pas la même chose, n'est qu'un caméléon qui change de couleur comme de discours en fonction de ceux qui sont en sa présence. Je cite et je traduis le folio 52 recto 2 du secretario real. Alors que, bien sûr, le secrétaire est le pilier intangible dont la solidité est à la hauteur de la charge dont il est digne par son expertise. La comparaison donc entre le gouvernement de la maison et celui de la République apparaît lorsqu'il s'agit de fournir un exemple de l'intégrité du secrétaire et de son acuité d'esprit. Pedraza nous dit bien qu'il doit avant tout être formé en droit et que sa charge ne dépend aucunement de la faveur du roi ni de celle de son privado, mais qu'elle est acquise par le mérite et l'honneur que sa formation dans les écoles lui confère naturellement. C'est la citation exacte. On comprend immédiatement la revendication des prééminences de la corporation et la charge contre le valide. Mais voici le passage qui vient après et qui doit servir de caution à l'expérience et à l'intégrité du secrétaire en matière de gouvernement. Je cite et je traduis. On découvre cela dans un exemple familier, casero, dans la forme et la manière que l'on a d'administrer sa famille, laquelle, bien qu'elle ne requiert qu'un petit gouvernement, est modèle du grand, de celui d'une ville ou d'un royaume. À travers lui, ce petit gouvernement, on découvre la doctrine que l'on aura appliquée au grand. Alors, Pedraza s'occupe dans ce passage de trois niveaux de gouvernement, maison, ville, royaume. Le premier servant de modèle pour les deux autres. Il permet surtout d'éprouver les dispositions du secrétaire pour sa charge, car le juste et droit gouvernement de la maison, où s'appliquent les règles doctrinales acquises sur les gradins universitaires, sert de garantie contre les abus de pouvoir et les mécanismes de corruption que Pedraza déplore ailleurs explicitement dans son discours. D'ailleurs, il faut remettre cette œuvre dans son contexte, bien entendu, puisque 1620, date de la publication de l'ouvrage, Lerma a été définitivement écarté du pouvoir et le procès de Calderón est en cours, même s'il ne prend réellement son tour définitif qu'après la mort de Philippe III. Le règne de Philippe IV, en tout cas, s'annonce et les experts en droit préparent la transition politique, faisant valoir leur expertise, que ne doit contrarier la présence d'aucun favori. Il en va, d'après eux, de l'équilibre du fonctionnement institutionnel et partant de celui du gouvernement de la monarchie. Alors, le passage chez Pedraza est relativement bref, quelques phrases tout au plus, mais la comparaison fait sens, d'autant plus si on la confronte à d'autres exemples. Alors, bien sûr, maintenant je passe au dernier exemple, c'est-à-dire le discours aristocratique de l'économique, ou la maison comme petite république. Le paradigme de l'économique occupe également une place importante dans la littérature dite nobiliaire, à savoir celle qui est produite par les nobles ou pour les nobles. Nous le savons, l'ordre privilégié est amené à produire des stratégies discursives de légitimation de la distinction et de l'honneur en un temps de débat sur les privilèges et sur la naissance. Dans ces discours se ménage une place de choix, l'aptitude aux charges de gouvernement. En cela, les représentants de la noblesse se positionnent de façon concurrente, certes, aux jurisconsultes dans l'appareil de gouvernement, mais de façon légitime aussi, puisque leur place aux côtés du roi procède de la conception médiévale de la royauté comme source de noblesse. Dans les exemples que j'ai pu relever, la comparaison entre gouvernement de la maison et gouvernement de la République est utilisée dans sa reversibilité. Maison, République, République, maison. Et donc dans toute son étendue. On en trouve des modalités intéressantes chez Antonio López de Vega, que j'ai cité tout à l'heure, qui se dit secrétaire du connétable de Castille en 1626, alors qu'il donne son « Sueño del perfecto señor » aux presses de plomb, hein, qui est publié la même année. On le trouve également sous la plume des aristocrates eux-mêmes, comme par exemple chez Luisa María de Padilla, épouse du comte d'Aranda, qui publie successivement en Aragon quatre ouvrages sur la noblesse entre 1637 et 1644. Tous deux produisent des discours à l'inspiration commune. Dans sa première œuvre, Noblesa Virtuosa, qui est publiée à Saragosse en 1637, la comtesse d'Aranda offre aux descendants masculins de l'aristocratie un tableau typologique des relations familiales, sociales, courtisanes du gentilhomme, comme l'avait fait avant elle, selon des modalités semblables, Antonio López de Vega, que j'ai cité tout à l'heure. Le devoir d'obéissance envers le père y est placé avant même l'obéissance avec le roi, c'est important. Suite une présentation codifiée des relations amicales, puis de celles que l'on entretient avec frères et sœurs, parents, femmes, enfants, vassaux, serviteurs, bref. Un ample chapitre sur le gouvernement de soi-même vient clore le traité. Chez López de Vega, l'ordre est inversé, c'est-à-dire que le gouvernement de l'âme vient en premier lieu. Il précède celui des États nobles, le gouvernement des États nobles, qui requiert selon López de Vega, le savoir des préceptes politiques, mais implique également la bonne gestion de l'économique de la maison. Entre les deux chapitres, gouvernement de soi et gouvernement des États et de la maison, sont intercalés deux sous-chapitres sur l'éducation et les disciplines nécessaires à l'apprentissage du noble, sur la formation intellectuelle et physique, adaptée à ceux qui seront appelés à exercer les plus hautes charges de la République. Ce sont les propres termes de l'auteur. Perfecto Señor, 1626, page 14 exactement. Il ressort de cette structuration particulière que le savoir requis à l'exercice du gouvernement de la famille, des états seigneuriaux, de la république, famille, états seigneuriaux, république, ne relève en rien comme dans l'ouvrage de Pedraza, de l'expertise jurisprudentielle. Il faut prendre en compte qu'aux yeux de certains aristocrates, les charges occupées dans les conseils royaux, quand bien même s'agirait-il de celles du président du conseil de Castille, font courir le risque de la dérogance. La dérogance. Occuper ces charges fait subir le risque de la dérogance. Ce sont en effet les propres mots de Jerónimo de Ataïde, comte de Portalegre, rapportés si souvent par Fernando Bauza. Il aime particulièrement ce texte. L'exercice du gouvernement de la famille, des États, de la République, relève plutôt d'un savoir dans le domaine des langues, très bien, de l'histoire, de la politique, discipline maîtresse en matière de gouvernement, adaptée à une pratique de la prudence, toujours elle, catholiquement exercée. Car le noble ne se destine en rien à la carrière d'auteur, expert en sciences, mais aux charges qui servent, je cite, « la réputation de la monarchie, au gouvernement prudent de ses États et au noble exercice de pater familias, tout ensemble. » Dans ce discours, le noble qui agit en bon père de famille dans sa maison revient à faire de celle-ci une république en miniature, ce que Lopez de Vega affirme par ailleurs « es una pequeña república la casa de un señor ». Mais je crois que là, je n'ai pas besoin de traduire. Dans les deux cas étudiés, Lopez de Vega, Luisa de Padilla, la comparaison entre maison, état, république revêt plusieurs sens. Donc je vais les détailler en trois moments. D'abord, l'attachement au territoire juridictionnaire et à la notion de seigneurie, totalement fondamentale dans l'affirmation identitaire de l'aristocratie. Ce sentiment différencie foncièrement la noblesse de naissance, fondée sur les notions de vertu, de lignage, d'hérédité des biens patrimoniaux, de la noblesse d'office et de la noblesse politique, disait-on à l'époque en Espagne, que l'on acquiert par les charges administratives au service de son roi. L'aristocratie, en exaltant l'assise territoriale du nom, du lignage, consolide ainsi la légitimité juridictionnelle qui est la sienne, et qu'elle a reçu en des temps immémoriaux par délégation royale. Il est à cet égard particulièrement significatif que la comtesse d'Aranda, donc c'est Luisa de Padilla, hein, que j'ai cité tout à l'heure, qui est bien sûr auteur, femme écrivain, épouse d'un futur grand d'Espagne, emploie, donc Luisa de Padilla, emploie, au moment de la comparaison qu'elle établit entre la maison, les États et la République, une image particulière, qui lui est particulière, mais vous allez voir qu'on la retrouve ailleurs, l'image de principe cultor, c'est-à-dire mot à mot, prince cultivateur. Je cite son ouvrage, le dernier, Idea de Nobles, daté de 1644, et c'est la page 525. Alors, prince cultivateur, c'est-à-dire celui qui cultive ses terres, qui les administre prudemment pour en tirer le meilleur profit, au bénéfice de tous ceux qui sont sous sa protection de père de famille, de chef de lignée, et de patron de clientèle. Cette métaphore agricole, si vous me permettez cette expression, accompagne le discours suivant lequel le seigneur doit assurer la sustentation des besoins nécessaires des membres de sa maison, comme le roi, en tant que bon père de famille, doit en faire de même à l'échelle de la République tout entière. Et je cite toujours Idea de Nobles, page 525. Pour point de comparaison, je citerai un autre auteur, Lopez de Deza, qui est l'auteur d'un petit ouvrage intitulé « Le gobierno de agricultura » daté de 1618, qui tient un discours très similaire en exaltant l'activité d'agriculture. Selon cet auteur, qui reprend et revendique le lec du livre 1 des économiques d'Aristote, vous voyez qu'on est en plein dans ce que j'ai dit, la noblesse et la dignité de l'agriculture résident dans le fait qu'elle a trait à l'approvisionnement et à l'augmentation de la République, auquel doit veiller le roi comme père de celle-ci, père de la République, bien sûr. L'agriculture étant au fondement de la survie des peuples, elle est aussi au fondement de l'obéissance. Tout roi ou gouverneur ou qui que ce soit ayant en charge une communauté doit y pourvoir, afin de rendre ses vassaux, je cite, « bien habitués et obéissants », nous dit Deza, page 33 de son traité, enfin l'édition contemporaine. Pourvoir aux nécessités domestiques se trouve donc bien au fondement de l'autorité et de la structuration d'un royaume pacifié. Ensuite, deuxième point que je voudrais relever dans tous ces exemples, dans les deux exemples que j'ai pris pour la culture nobiliaire, on progresse par degrés et proportions dans le système analogique maison-État-République que j'ai détaillé. L'expertise acquise dans le gouvernement de la maison et des États corrobore l'aptitude et les prétentions des chefs de lignée à exercer les charges d'excellence en matière toujours de réputation et d'honneur auprès du roi. Le service royal faisant finalement se superposer l'honneur politique à la prééminence biologique et sociale, ce qui permet de mettre en perspective, me semble-t-il, l'évolution de la littérature nobiliaire relevée par Berendero, thèse de 2009, je répète. Conséquemment, et étant donné les deux derniers points que nous venons de développer, le gouvernement de la maison est englobé dans une trilogie qui interdit bien sûr de le penser comme faisant partie de la sphère privée. La publication d'ailleurs éditoriale de ce type de texte en constitue la preuve matérielle. Du reste, la bonne gestion des États nobiliaires retentit sur la réputation de l'ensemble de la monarchie, puisqu'entre autres choses, c'est à ces seigneurs titrés que s'adresse le roi pour solliciter chefs d'armée, levée de troupes et autres ayudas de costa pour subvenir aux nécessités de la géopolitique de la monarchie. Ce n'est pas en vain, d'ailleurs, si Lopez de Vega affirme que les fonctions qui incombent à son seigneur en tant que, je cite, « gouverneur avisé de ses états et noble père de famille » sont emportées au crédit de la monarchie pour la plus grande gloire de la République, encore une citation. Ici, comme dans la citation de Padilla, la République est à comprendre au sens large, bien sûr, de choses publiques qui ne se réduit pas au gouvernement civique des élites urbaines, encore que cette dimension soit également à prendre en compte. Car, et c'est le dernier point, à observer les stratégies discursives et leurs valeurs légitimatrices, revendicatives, voire polémiques, il semble que l'on doive accorder une attention particulière à la façon dont ces auteurs au service de la noblesse ou nobles eux-mêmes, comme Luisa de Padilla, déroulent consciencieusement toute une typologie des relations qu'est amené à déployer le seigneur en tant que pater familias. Nous l'avons brièvement évoqué, mais il faut y revenir. Sont examinées les relations entre égaux, avec les nobles inférieurs en dignité, avec la parenté, les frères et les sœurs, mais aussi la parenté plus éloignée, avec les vassaux, la domesticité, également celle que le seigneur doit entretenir avec le roi et les ministres, les relations avec le favori faisant l'objet d'un traitement particulier, par exemple pour conseiller la plus grande défiance, dans le cas de Lopez de Vega. Il faut se défier du favori. Quant à Luisa de Padilla, elle offre un cas encore plus radical en la matière, puisque dans sa typologie, les relations avec le favori sont tout simplement tues. Et donc, comme s'il s'agissait, bien sûr, de refuser toute légitimité à cette figure. Alors, l'exhaustivité ou la quasi-exhaustivité de ces typologies et les analogies qui s'y établissent entre sphère domestique et sphère monarchique nous apparaissent fondamentales pour notre propos. Elles donnent d'abord à lire l'éventail du capital relationnel qui est le propre des chefs de lignée et qui est particulièrement nécessaire à leur survie en tant que telle. Elles exhibent la densité clientélaire qui fait leur force pour le maintien de leur réputation. Elles accordent la primauté à l'organisation familiale que viennent renforcer ou infléchir les alliances matrimoniales. Dans cette affirmation publique, supportée par les institutions de contrôle du livre, je rappelle que ces œuvres sont toutes publiées en Aragon ou en Castille, avec toutes les approbations et licences requises, le paradigme du gouvernement de la maison aristocratique met en avant le caractère, ou semble mettre en avant, le caractère indispensable des réseaux de l'ordre. Il semble seul susceptible d'assurer l'articulation entre le niveau local des élites urbaines et le niveau centralisé des élites politiques courtisanes. En d'autres termes, la littérature qui prend ainsi comme centre de gravité l'analogie entre le gouvernement de la maison et le gouvernement de la République me semble communiquer sur le fait que les structures relationnelles serrées et cohérentes des réseaux nobiliaires sont des relais indispensables au bon fonctionnement des rouages de la monarchie. Le maintien et l'activité de ces réseaux constituent en fin de compte le garant de la paix sociale et de l'harmonie du royaume. À cet égard, il me faut citer un autre ouvrage intitulé « Direction des secretarios de señores » et qui est l'œuvre de Gabriel Pérez de Angulo. Comme son titre l'indique, « Direction des secretarios de señores », l'œuvre de Pérez de Angulo s'occupe de la fonction du secrétaire du seigneur et il me semble qu'elle gagne à être connue. Dans cette œuvre, qui interfère avec les thématiques de la littérature nobiliaire, c'est pour ça que je l'aborde maintenant, Pérez de Angulo passe en revue les fonctions et obligations du seigneur des vasallos, c'est-à-dire du seigneur qui a des vassaux sous son autorité. Dans une première partie, son discours y prend la tournure d'un portrait à charge, où domine une diatribe contre la violence faite aux vassaux, c'est tout à fait surprenant, et contre la cruauté du seigneur. Ces indices de conflictivité me semblent indicatrices des tensions générées par la nécessaire présence d'une figure représentant l'autorité familiale au sein de la maison noble. Mais ils servent aussi de faire valoir au portrait idéal du seigneur que trace ensuite Pérez de Barrio Angulo sous les traits du bon père de famille. Il y exalte la clémence, la justice, les liens d'amour, de confiance, toujours la même chose. Seul capable, ces liens, d'instaurer l'harmonie au sein des états seigneuriaux. Ainsi, pourront-ils se conserver, nous dit Pérez del Barrio Angulo, et prospérer pour le plus grand bien de la République. Les seigneurs, grâce aux vertus qu'ils cultivent en tant que bons pères de famille, grâce au choix de bons ministres et de bons secrétaires, il faut rappeler que l'organisation d'une maison noble est vraiment calquée sur celle de la monarchie, sont également les garants de la paix du royaume. On peut tout aussi bien lire dans cette œuvre, en tirant un petit peu, une menace en creux qui induirait que les nobles, pères de famille, ne soient plus un jour garants de cette paix. La typologie des conflits entre princes et vassaux qu'établit Pérez del Barrio Angulo est à ce propos particulièrement subjective et fait entrer cette littérature sur le secrétaire dans le débat sur le disciplinement des sujets, sur les risques de dissensus, de désobéissance au sein d'un royaume où les liens familiaux, compris au sens de liens d'amitié, de confiance, de solidarité, ne feraient plus leurs effets. La littérature sur les villes vient en quelque sorte corroborer ce schéma, mais c'est un pan qui me reste à explorer. Si Juan Costa déroule consciencieusement l'intégralité du paradigme de la gouvernementalité, il s'occupe avant tout du rôle du parfait échevin. Dès 1574, il affirme le rôle prépondérant de la cité dans l'ensemble de la monarchie. Les groupes sociaux qu'il défend sont les élites urbaines. Gilles Pujol a bien fait remarquer que les familles de référence chez Costa sont également d'origine noble. Ce sont elles qui sont à la tête de l'administration des villes et constituent les oligarchies urbaines. Ce n'est pas non plus en vain, j'essaie de boucler, que Celio Rigo, avocat à la chancellerie royale de Valladolid, chante dès 1600 les vertus de l'assise locale de la noblesse, qui, maîtresse de l'economica, c'est-à-dire du bon et juste gouvernement de la famille, est érigée en modèle pour le royaume. Car, nous dit-il, encore une citation que je traduis, « La famille bien réglée est la véritable image de la République et le gouvernement prudent de la maison la plus illustre est le véritable modèle de celui d'un royaume. » Ainsi, continue-t-il, reprenant les termes d'ailleurs de Jean Baudin, auquel il se réfère et qu'il plagie d'ailleurs, « La République jouira de la prospérité, c'est une citation de cet auteur, dès lors que les familles des habitants des villes seront bien gouvernées. » Par ailleurs, il reprend l'argument déjà vu selon lequel l'expérience et la prudence mises en œuvre dans l'economica de la famille montreront leur aptitude pour le gouvernement de la République que Celio Rigo qualifie d'universel. Changement d'échelle, du royaume à l'univers, qui sert justement d'illustration hyperbolique de la responsabilité incombant aux élites urbaines, dont il est le ferveur défenseur et le premier débiteur en tant qu'avocat de la chancellerie royale de Valladolid. Mais ce schéma général, et j'en terminerai par là, souffre également des nuances, et l'on pourrait évoquer, pour finir, la façon dont Juan de Santa Maria, dans la lignée de Montaigne ou de la Motte-le-Vaillère, met en avant dans son traité de 1615 les limitations de l'action du monarque en tant qu'être humain. Lui qui, parfois, ne comprend pas tous les processus du fonctionnement de ces États. Si le roi est un père de la République, il en a aussi les limites, nous dit Santa Maria. La principale qualité du roi sera alors, et je cite bien sûr le Trattato de Santa Maria, la docilité envers ceux qui savent, page 72, pour laisser agir les experts dans, je cite, les affaires que son intendement ne peut concevoir. Le roi, selon Santa Maria, est un bon père de famille qui s'en remet à Dieu, aux experts et au silence tactique. En tout cas, je schématise un petit peu, mais ce sont des citations, pages 58, 59 et 62. Je conclus. Je n'ai été que trop longue. Quelques remarques donc sur la question de l'épistémologie et la place tenue par l'économie dans la trilogie de la philosophie morale. L'étude du paradigme de l'économie domestique et de son lien à la politique et à l'éthique oblige peut-être à reconsidérer les démarches intellectuelles qui consistent à faire progresser linéairement l'autonomisation des disciplines mises en jeu dans la trilogie. L'historiographie des disciplines désormais constituées a peut-être, trop longtemps cherché le moment où chacune d'entre elles se défaisait des autres pour voler de ses propres ailes dans un but de légitimation propre. Il me semble que l'étude du savoir unitaire de la philosophie morale le démontre, du moins en partie. Ce sont les historiens du droit qui ont permis de comprendre à quel point la gestion de l'oikos et la philosophie naturelle du lien familial étaient structurellement déterminantes dans le trafic social. Bartolomé Clavero s'est attaché à en dépendre les contours par l'histoire et l'anthropologie de l'antidora, cette forme de réciprocité amicale qui répugne totalement à toute mise en forme juridique. Les relations antidorales, si l'on veut bien accepter la traduction que fait Jean-Frédéric Schaub des termes de Clavero, servent alors de cadre à l'économie, pensée avant tout en termes éthiques et théologiques. Dans leur volonté de comprendre la hiérarchisation des pouvoirs à l'intérieur d'une république bien ordonnée, contre l'affirmation positiviste de la formation progressive et linéaire de l'État moderne, les historiens du droit ont fait le constat de l'impossibilité d'extraire l'administration monarchique de la sphère domestique pour la projeter dans un espace public de décision. Il se fondait sur les discours politiques et économiques écrits par les théologiens et les juristes de Salamanque ou de Bologne. Alors, fort de cet apport fondateur, l'étude du paradigme de l'économie domestique gagne, à notre sens, à être étendue à d'autres types de production que celle des traités sur l'échange, par exemple. C'est un exemple. Il n'est pas alors tout à fait infondé de penser que par le biais des catégories littéraires, comprises au sens large, celles de la littérature d'idées en particulier, dont le propre est de se trouver à l'intersection de plusieurs de nos disciplines d'aujourd'hui, l'on puisse trouver la trace des modes de pensée dans lesquels les frontières disciplinaires n'étaient pas encore de mise. Croisée à l'analyse des discours et appliquée à l'étude du paradigme de l'économie domestique, elle semble permettre, toujours à notre sens, une lecture transversale des discours d'autorité et de pouvoir dans une monarchie hispanique qui se situe à un tournant de son histoire institutionnelle et politique. Pour parler encore en d'autres termes, foucauldien cette fois, mais modestement, l'archéologie de ce paradigme, que nous avons rapidement, sans doute incomplètement ébauché, puis la tentative de topographie que nous avons proposée à partir de quelques exemples, peut conduire, encore à notre sens, peut-être, à saisir l'appropriation auquel se livrent les différents acteurs sociaux d'un ordre social hiérarchisé, fondé sur la structure familiale, qui considère comme naturelle et au fondement de toute source d'autorité. Nous constatons que le paradigme domestique offre une référence qui assoit la légitimité des discours sur une tradition séculaire, issue du savoir antique, dont l'apport transite, tout en étant modelé par le Moyen-Âge, pour se trouver nouvellement articulé au siècle qui nous occupe. Ce paradigme et les diverses articulations qui nous en sont proposées offrent une référence intelligible et applicable à tous les corps sociaux envisagés. Jurisconsultes, nobles, administrateurs des villes, membres de l'administration royale, seigneuriale, dans la représentation qu'ils sont d'eux-mêmes ou qu'ils souhaitent transmettre, ça peut être différent, et dans le rapport qu'ils envisagent être le leur vis-à-vis du bien commun de la République. elle leur permet de se situer dans l'ordre social en faisant s'articuler adéquatement plusieurs échelles d'unités politiques qui chacune peut être rapportée en dernière instance à la figure tutélaire et paternelle du monarque. Par la variabilité des proportions, le petit, le grand, le local, le national, la ville, la cour sont pensés en lien les uns avec les autres, afin que chaque élément trouve sa place pour une meilleure harmonisation de l'ensemble. Ce qui semble plus surprenant, c'est que l'étude du paradigme de l'économie domestique et de son appropriation par les différents discours étudiés permet également, nous semble-t-il, de mesurer, par un angle de vue peut-être encore peu exploré, les degrés de politisation propres à chaque écrit. Alors qu'il se rapporte à des schémas de pensée légitimés, on l'a vu, par les autorités, Aristote en particulier, et au fondement accepté de tout lien social, le paradigme de l'économie domestique sert de support à des discours revendicatifs de légitimité, d'expertise, mais aussi à une contestation explicite ou feutrée du fonctionnement des rouages de la monarchie. Nous constatons ainsi que la critique emprunte non seulement les voies de communication manuscrites, mais aussi les circuits de l'imprimé, avalisés par les conseils royaux chargés de leur surveillance. Il est ainsi patent que la politique de concession des licences d'impression en Castille, a fortiori en Aragon, pouvait sensiblement diverger des souhaits du roi. Dans cette perspective, l'utilisation du paradigme de l'économie domestique, jouant sur les chaînes analogiques pourtant très anciennes, se trouve comme resémantisée à la période qui nous occupe et enrichie par des implications politiques et contextuelles nouvelles. Mettre en valeur l'importance des rouages de hiérarchie sociale, clientélaire, à tous les niveaux de pouvoir, familial, urbain, monarchique, pour l'efficience de l'acte politique et de son champ d'application, mais aussi justifier la place des conseillers autour du roi, détailler les vertus, les utilités de l'expertise juridique sur laquelle le monarque, confronté aux limitations de son humanité, on l'a vu avec Santa Maria, doit nécessairement s'appuyer, sont à considérer, me semble-t-il, comme autant d'argumentaires, peut-être bien vindicatifs, contre l'axiome majeur de la raison d'État, quand bien même elle serait christianisée par l'effort des théologiens jésuites. Necessitas fecit legem, un axiome par lequel s'imposent les arcana imperii et la décision royale, laquelle apparaît trop souvent comme celle du favori. Si l'on pousse un peu, contre l'autoritarisme monarchique, qui cherche à s'affranchir des lourdeurs des mécanismes de la polysynodie, certains acteurs sociaux encouragent des discours alternatifs à celui de la raison d'État, quitte à brandir la menace de la désobéissance. Une autre grande peur fut sans doute celle des réformes des maisons royales projetées par Philippe III et menées à bien non sans mal par Philippe IV. Charles Quint et surtout son fils Philippe II avaient conçu les maisons royales comme un lieu d'intégration des élites afin que soit assurée l'articulation politique entre les différents royaumes. Philippe II avait tenu à y faire entrer des représentants de tous les royaumes, en même temps qu'il permettait l'entretien de maisons royales dans chaque royaume ou vice-royauté, même si le monarque en était absent. Philippe III projette une réforme de la maison royale bourguignonne, mais ne la mène pas à bien, au contraire de Philippe IV. Contre la réforme, précisément, de 1624, qui limitait l'accès au cursus honorum courtisan en réduisant le nombre des charges du service royal, l'apologie des clientèles au sein de l'administration des États nobles pourrait revenir, en quelque sorte, à menacer de rupture le consensus social. C'est du moins l'hypothèse que je formule devant vous. Dans le texte des ordonnances de 1624, et j'en terminerai par là, adressé à son premier majordome, Philippe IV expliquait que la rupture de la trêve de 12 ans avait réduit la monarchie à un tel état de manque d'argent qu'il entendait prendre toutes les mesures possibles pour y pourvoir, en particulier par une diminution des dépenses. Afin de réformer l'ensemble des cours, il souhaitait, ce sont ses propres termes, d'abord commencer par sa propre maison. Sous-entendu qu'une telle réforme devait servir de modèle au fonctionnement monarchique dans son entier. Le roi lui-même entendait, en tant que bon père de famille, commencer par gouverner mieux sa maison avant d'entreprendre de gouverner mieux la République. Par la reprise de ce discours domestique, le roi cherchait sans doute à court-circuiter un des supports les plus courants des critiques qui visaient les rouages politiques de la monarchie. Ce qui fera dire à Diego Saavedra Fajardo dans son Empresa 31, encore lui, et que cite d'ailleurs le dictionnaire des autorités dans sa quatrième définition du mot « casa », maison, « más fácil suele ser el gobierno de una provincia que de una casa. Muchos príncipes supieron gobernar sus estados, pocos sus casas. » Le gouvernement d'une province est plus facile que celui d'une maison. Beaucoup de princes surent gouverner leurs états, peu leurs maisons. Je vous laisse méditer cette citation. Merci.